contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray. 13e année, la résistance au nihilisme. Aujourd'hui, Michel Dufresne, une vie.
Merci d'être là pour ce premier cours sur Michel Dufresne, qui est le premier cours du dernier philosophe dont j'entretiendrai dans cette contre-histoire de la philosophie, jusqu'à preuve du contraire. Je voudrais vous entretenir de Michel Dufresne parce que je pense qu'avec Vladimir Jankélévitch et puis avec Robert Misraï, il a fait partie de ceux qui ont résisté aux modes du XXe siècle. Et effectivement, les modes, on ne les voit pas trop sur le moment. Il y a ceux qui souscrivent au temps et à l'époque, et puis il y a ceux qui résistent au temps et à l'époque, et puis il y a les indépendants, les rebelles, les personnages singuliers. Et il est bon que, des années après, quand les choses se sont un peu calmées, on puisse rendre justice à des gens qu'on a parfois oubliés. Et c'est un peu le sens de la contre-histoire de la philosophie. Aller chercher ceux qu'on a oubliés et savoir pourquoi on les a oubliés alors qu'ils ont fait des choses importantes. Il y a chez Michel Dufresne donc cette résistance à l'époque. Et ce qui m'intéresse également, c'est qu'il théorise cette résistance à l'époque. Et on analysera la façon qu'il aura eu de résister au structuralisme dans le temps même du structuralisme. C'est facile aujourd'hui avec la distance d'analyser de manière critique le structuralisme, mais quand les livres paraissent, et quand tous les livres du structuralisme ne sont pas encore parus, avoir l'acuité intellectuelle qui était la sienne mérite un coup de chapeau. Ça a donc été un homme libre parce qu'il a été de gauche. C'est presque un pléonasme chez un philosophe, on n'en connaît pas beaucoup qui soient de droite, ou quand ils sont de droite et qu'ils le sont, on les maltraite. On ne lit pas Carl Schmitt, on ne lit pas Oswald Spengler, par exemple, on ne lit pas enfin, des individus qui apportent pourtant à la pensée ou à la réflexion. On ne lit pas la contre-révolution du XIXe siècle, on ne connaît pas de Maistre, on ne connaît pas de Bonald, on ne connaît pas Blanc de Saint-Bonnet, enfin voilà, des philosophes de droite, des catholiques traditionnalistes qui ont pensé quelque chose d'alternatif à ce qui se faisait dans l'époque. Donc ça a été donc un homme de gauche, Michel Dufresne, mais pas marxiste, pas stalinien, pas gauchiste, pas trotskiste, pas maoïste, comme nombre de ceux qui ont traversé le siècle. Il n'a pas été touché non plus par la disgrâce, je dirais, freudienne ou lacanienne. Il n'a pas déliré, comme d'aucuns dont les livres se sont effondrés au fur et à mesure que le temps passait. Et il n'a pas utilisé de sabir non plus, de jargon. Et c'est intéressant parce que je crois qu'il y a une tradition de la philosophie française qui, de Montaigne, qui écrit en français, alors que la langue savante à l'époque c'est le latin, mais de Montaigne jusqu'à des philosophes contemporains, il y a une grande tradition de lisibilité dans la philosophie française. Il n'y a rien d'illisible dans la philosophie française avant Jean-Paul Sartre. Il y a des choses plus ou moins compliquées. Pas facile de lire Bergson, mais on peut le lire, on peut le comprendre, parce qu'il n'y a pas de, jargon chez Bergson, et toute la philosophie du XVIIIe est extrêmement lisible. Voltaire, Diderot, Helvétius, D'Holbach, Lametti, Montesquieu sont des gens extrêmement lisibles. Donc il y a chez Michel Dufresne une façon de résister aussi à la phénoménologie française quand elle est traduite de l'allemand d'une certaine manière, celle de Sartre. Même s'il dit du bien de la phénoménologie de Sartre, mais vous verrez qu'il illustre, à mon goût, une phénoménologie française qui joue toujours avec la clarté, la lisibilité, l'expression, enfin l'art poétique de Boileau. Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément. Ce sont des choses qu'on apprenait au lycée et qui me paraissent toujours justes et d'actualité. Donc il n'y a pas de sabir chez lui, il n'y a pas de jargon, ça rend donc sa prose facile, lisible, agréable, même si c'est pas toujours facile, mais enfin c'est au moins lisible et parfois agréable, et parfois même très élégant. Et il n'a jamais non plus joué le maître. C'est quand même une obsession aussi au XXe siècle que d'avoir eu des disciples, d'avoir joué le maître, y compris dans des endroits où on critiquait la maîtrise. Je songe à Vincennes, où quiconque était professeur se voyait insulté, maltraité. Je songe à Paul Ricoeur, on lui demandait d'où tu parles. De qui et de quoi t'autorises-tu pour faire des cours ou pour donner des cours? On en sait autant que toi, voire plus que toi. Et cette période a produit aussi des maîtres, des contre-maîtres, si je puis me permettre l'expression, mais qui étaient tout de même des maîtres. Les Deleuze, les Foucault, qui ont consenti à cette maîtrise et qui l'ont même parfois recherchée. Critique de la maîtrise des autres, le mandarinat, mais acceptation d'un autre type de maîtrise qui est la maîtrise de ceux qui critiquent la maîtrise. Eh bien, il n'a pas eu ce jeu-là chez Michel Dufresne, qui n'a pas été un disciple, encore que, je vais vous parler d'Alain tout à l'heure, et qui n'a pas non plus produit d'élèves qui auraient été des disciples. C'est donc, je vous le disais il y a quelques secondes, un élève d'Alain. Et j'aurais pu peut-être intégrer Alain dans la contre-histoire de la philosophie, mais je vous ai dit que peut-être un jour je ferai, de toute façon, c'est pas peut-être un jour, mais je ferai ce que les peintres appellent des repentirs, c'est-à-dire des petites touches qu'on rajoute à l'œuvre complète de la contre-histoire de la philosophie, parce qu'il y a des philosophes que j'ai oubliés et qu'il faudra réintégrer, dont Deschamps, Feuerbach, enfin quelques autres. Alain n'entrera pas complètement, mais je souhaitais qu'il soit tout de même présent, et le cours sur Michel Dufresne me permet d'intégrer Alain, et ça me permet d'effacer des bêtises que j'ai pu dire quand j'étais jeune et bête. Je ne suis plus jeune, je peux être encore bête, mais j'étais intervenu à l'invitation des amis d'Alain à Mortagne, et j'avais dit des choses sur Alain que je croyais juste à l'époque. Enfin, je me disais, voilà quelqu'un qui est passé à côté de plein de choses. La relativité d'Einstein, l'art contemporain, etc. Donc on peut s'entendre là-dessus. Et je disais aussi qu'il était passé à côté de la psychanalyse. Or, sachant ce que je sais depuis, c'est Alain qui avait raison et moi qui avais tort sur la question de la psychanalyse. Ce que Alain a écrit sur la psychanalyse était juste et fondé. Il n'a pas souscrit à cette mode-là. Alain, il avait bien raison et moi j'y ai souscrit et j'avais bien tort. Il n'y a pas évidemment de biographie des hommes libres. Il n'y a pas de biographie de Vladimir Jankélévitch, il n'y a pas de biographie de Michel Dufresne, il n'y en a pas encore de Robert Misrahi, mais c'est déjà autorisé d'une autobiographie, il a fait la biographie de lui-même, comme ça, ça lui permet de ne pas attendre celle qui pourrait arriver un jour. Et Michel Dufresne mériterait vraiment une biographie. Alors c'est difficile de retracer un parcours biographique d'un personnage qui n'a rien laissé, sur lequel on n'a rien écrit. Il faudrait travailler comme pour un livre, c'est-à-dire, pour le coup, aller dans les archives, dépouiller des correspondances, rencontrer des témoins, des gens qui auraient pu nous dire un certain nombre de choses, mais dans la limite qui m'est impartie dans un cours de contre-histoire, je ne pouvais pas rentrer plus dans le détail que ce que j'ai trouvé. Mais ce que j'ai trouvé montre un trajet de professeur et un trajet d'homme libre, c'est ce que je vous disais. Donc, Michel Dufresne est né à Clermont dans l'Oise le 9 février 1910. Sa mère était pianiste et son père inspecteur de l'enseignement primaire. Il fait ses études dans cette ville de Clermont, décroche son bac en 1925 et en 1926, il fait hypocagne et cagne à Henri IV à Paris. Et c'est à ce moment-là donc qu'il rencontre Alain, Émile Chartier, dit Alain, pour une raison bien simple, c'est qu'il y a un poète qui s'appelait Alain Chartier du côté de Bayeux, poète médiéval. Et quand Émile Chartier a cherché un pseudonyme pour pouvoir écrire tranquillement, quand on est professeur, enfin à l'époque, quand on était professeur, on distinguait bien la vie publique, enfin la vie de professeur du moins, et la vie publique, et on signait d'un pseudonyme pour éviter d'avoir les ennuis. Et donc Émile Chartier prend le prénom de son homonyme, poète du côté de Bayeux, qui lui s'appelait Alain Chartier. Donc Alain, c'est donc Émile Chartier, qui lui a eu des élèves extrêmement célèbres. Il y a quelques biographies d'Alain, enfin au moins deux à ma connaissance, et aucune ne mentionne le nom de Michel Dufresne parmi les anciens élèves qui sont devenus célèbres, alors qu'on y rencontre évidemment les noms de Simone Veil, pas la femme politique mais la philosophe, Georges Canguilhem, André Mauroy, Jean Prévost, Jacques de Bourbon-Busset, Julien Gracq, Marcel Déa ou Maurice Schumann qui ont été des anciens élèves d'Alain. Michel Dufresne dit lui-même qu'il a eu le goût de la philosophie avec Alain et qu'il a eu le goût de l'enseignement de la philosophie avec Alain lui-même. Donc je voudrais rendre hommage à la façon qu'avait Alain de faire cours, qui est une façon atypique et qui, moi, m'a marqué, puisque c'est comme ça que j'ai fabriqué un peu ma méthode. C'est-à-dire que quand un jour on vous met devant 35 ou 36 élèves et que certains sont parfois plus âgés que vous, il faut bien démarrer avec une méthode. Et j'avais lu à l'époque une biographie d'Alain qui racontait comment il s'y prenait. Je trouvais que c'était une excellente méthode. Donc je vais vous rapporter quelques témoignages de quelques-uns de ses élèves. Il faisait écrire des dissertations au tableau et il les corrigeait. C'est extrêmement intéressant d'écrire et de travailler sur l'écriture pour des élèves et de travailler sur un tableau pour que tout le monde puisse voir comment on travaille un texte. Comment on rédige un texte, comment on l'amende, comment on le rend plus précis, comment on fabrique une phrase, comment on fabrique un paragraphe, enfin toutes ces choses que j'avais plaisir à enseigner à mes élèves parce qu'on ne leur avait pas forcément enseigné en amont. Et il préparait son cours très en amont et de façon très minutieuse. C'est-à-dire comme tous les gens qui donnent l'impression d'improviser, il y a un très long travail en amont. Donc il avait aussi, malgré les improvisations, la possibilité, et il le faisait en fin de cours, de dicter quelques notes que les élèves pouvaient donc recopier. Georges Benezet, qui est l'un de ses anciens élèves, raconte une anecdote rigolote. Il avait pris un cahier et il avait fait une belle couverture pour ramasser les notes d'Alain. Il avait écrit sur la première page « Manuel de philosophie à l'usage des candidats par Monsieur Émile Chartier, agrégé de l'université, professeur au lycée Michelet ». Et Alain vient le voir et lui dit « Alors vraiment ? Vraiment ? Vous me croyez capable d'écrire un manuel de baccalauréat ?» Et Benezet conclut « Il montrait en souriant un air infiniment triste ». Donc effectivement, il n'avait pas envie de passer pour un auteur de manuel, parce que ce n'était pas à son propos, puisque Jeanne Alexandre, qui elle était l'une de ses élèves au cours Sévigné, dit qu'il traitait de déloyal l'information par manuel ou par résumé. C'était nécessaire, les règles de l'inspection étaient celles-ci, et moi quand j'enseignais c'était aussi ça, il fallait dicter des cours aux élèves, mais on peut imaginer que ça n'était pas ce qu'il préférait forcément dans son cours. Émile Herzog, futur André Mauroy, il nous donne quelques-uns de ces sujets. Il dit « Les sujets qu'il nous donnait étaient faits pour tuer la rhétorique. Une jeune fille est sur le point de franchir le parapet du pont Boieldieu, un philosophe la retient par la jupe, dialogue. Ou alors, un autre sujet de devoir, dialogue entre un sacristain et un capitaine des pompiers sur l'existence de Dieu. On peut imaginer ce que ça peut donner chez le radical qui était Alain, enfin le philosophe radical socialiste qui était Alain. Il a noté soigneusement ses copies et traqué systématiquement le jargon, et il rendait les copies pliées, nous disent ses élèves, justement pour éviter l'humiliation de la note. Il avait déjà le souci de ces choses-là. Tout était prétexte, nous disent les anciens élèves, à philosopher ou à faire philosopher en cours. Et l'un d'entre eux raconte qu'un élève est rentré un jour avec une liste en main et a placé cette liste dans son casier, puis l'a oubliée. Et que, quelque temps plus tard, le censeur est entré dans la classe et a demandé l'argent pour les pauvres, puisqu'il s'agissait de faire une quête, et l'élève avait oublié. Le censeur le blâme, et Alain se saisit donc de la circonstance et de l'occasion pour donner une petite leçon de philosophie au censeur, et lui dit « Les élèves n'ont pas donné, et alors ?» Le propre de la quête, dit Alain, c'est de solliciter les bonnes volontés. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de donner. Si on n'est pas obligé de donner, ceux qui n'ont pas donné ne sont pas susceptibles d'être maltraités. Ça veut dire qu'on peut ne rien donner ou ne rien vouloir donner. Le censeur, évidemment, trouve que c'est un peu trop de philosophie pour lui. Il rechigne et Alain dit « Question de principe, monsieur le censeur, ou ils sont forcés ou ils ne le sont pas, il vous reste encore les menaces et ils sont libres de s'y soumettre. » Évidemment, c'est trop pour un censeur qui bougonne et qui, en sortant, dit « Je ne vous félicite pas, monsieur Chartier. » C'était une façon donc de considérer que la philosophie n'était pas coupée du monde et qu'on pouvait penser la réalité. Socrate procédait exactement de la même manière, c'est-à-dire il partait d'un fait divers, d'un fait réel, d'un petit moment, d'une espèce de petite émergence, comme ça, un bout de ficelle qui sort, qui passe par là, et on tire et on a la plotte philosophique tout entière. Et on dit également que... un élève écrivait une phrase au tableau et que Alain la découvrait en entrant, et qu'il faisait cours à partir de cette phrase. Et c'est la méthode que moi j'ai pratiquée avec mes élèves de classe terminale pendant des années. Il commente la proposition et il en fait une analyse philosophique. Et un jour, un élève avait écrit sur le tableau une question qui demandait une réflexion sur la question des droits et des devoirs des prostituées. Et il se fait que ce jour-là, l'inspecteur est arrivé. Eh bien, Alain a fait son cours, évidemment, normalement, et il a été question des droits et des devoirs des prostituées, et je ne sais pas comment il a traité le sujet ou la question, mais je vois bien comment on peut mobiliser la critique de la raison pratique ou la métaphysique des mœurs de Kant pour traiter cette question-là. Michel Dufresne a donc suivi pendant 3 ans les cours d'Alain, il rentre à l'École normale supérieure en 1929, et à partir de cet exemple, il veut devenir philosophe et professeur de philosophie. Il est dans la même classe qu'Étiemble, Henri Kefelec et Jacques Soustelle. Étiemble est quelqu'un qui écrira de très beaux livres sur la question de la domination de l'anglais, ou du moins de l'anglais qui est entré en France et qui commençait à dominer. Parlez-vous franglais, par exemple. Il a écrit sur Confucius, il a traduit des textes chinois. C'était un sinologue éminent. Il a fait sa thèse sur Rimbaud, sur le mythe Rimbaud, qui est un travail extraordinaire. Kefelec était romancier, Henri Kefelec, c'est le père de Yann Kefelec. Et Soustel, avant de devenir un partisan de l'Algérie française, était un spécialiste des civilisations des Andes. Donc dans la même classe, agrégé en 1932 de philosophie, donc, et nommé dans des lycées de province, Thionville 33-34, Vesoul 34-36, ou Sens 36-39. En 1938, il épouse Madeleine Rossel. Et puis 1939 arrive, il est mobilisé et il va rencontrer Paul Ricoeur. Ils seront prisonniers tous les deux dans un camp de 1940 à 1945. À Grosbornes, pour être précis, et une tentative d'évasion par souterrain dans ce camp-là a fait qu'ils ont été transférés au printemps 1942 à Arnswalde, en Poméranie. Ils se retrouvent avec des intellectuels, Michel Dufresne, un agrégé de lettres, un professeur de philosophie à Versailles, et puis un angliciste. Ils rencontrent également Roger Icor, qui sera Goncourt un petit peu plus tard, en 1955, et à cette époque-là, Icor avait écrit L'insurrection ouvrière de juin 48, ou La première commune, ça c'était en 1936, et puis également l'année suivante, une biographie de Saint-Just. Et Icor se fera connaître aussi un petit peu plus tard par son combat contre les sectes, puisqu'il y a perdu un jeune fils. Et donc il rencontre Paul Ricoeur, ce qui ne sera pas sans intérêt pour la suite de l'histoire de la philosophie, puisqu'ils vont travailler tous les deux sur des sujets communs, puis ensuite sur des sujets qui les sépareront, mais sans vraiment complètement les séparer. Il y a une espèce de spiritualisme chrétien chez Paul Ricoeur, qui fait que effectivement il est chrétien, mais que de l'autre côté, Michel Dufresne, lui, est spiritualiste aussi, mais athée. Mais ils ont en commun le spiritualisme et une spiritualité qui va les réunir un petit peu plus tard, au moment de la critique du structuralisme dans la revue Esprit. Dans ce camp où ils se retrouvent, les conditions sont plus sévères et sont plus rigoureuses. Ils sont sous commandement SS, l'électricité est coupée 2 heures plus tôt. Les douches qui étaient quotidiennes deviennent hebdomadaires, il y a des poux évidemment, les appels qui sont arbitraires passent de 1 à 3 dans la journée, et parfois certains peuvent durer plus d'une heure, il y a des coups de crosse, 3000 prisonniers se retrouvent dans quelques baraques qui sont réparties sur 9 hectares. Ils ne le savent pas à ce moment-là, mais ils le découvriront un petit peu plus tard, il y a des cas de cannibalisme dans le camp juste à côté. Ils passent sous commandement de la Wehrmacht, les conditions s'améliorent, et ils sont 8 ou 15 par chambrée en moyenne, alors que eux sont 8, par exemple, dans son bloc 3, chambre 205, et ils font leur cuisine, ils reçoivent des colis, des denrées, de la nourriture, des livres, et on découvre un Paul Ricoeur maladroit, étourdi, distrait. Et alors qu'il traduit Husserl, qui est un philosophe juif, donc normalement interdit, mais qu'il le traduit avec, dans la marge, un crayon violet, il se met du violet partout sur le visage. C'est un pur esprit, nous dit Michel Dufresne, que rien ne distrait de son activité réflexive. Le camp est géré par un officier d'active et tous sont pétinistes. Ricoeur reconnaît honnêtement qu'il était lui aussi pétiniste et qu'il a défendu les thèses de la Révolution nationale. C'est bien de le reconnaître quand on est Paul Ricoeur, il y a une honnêteté chez Paul Ricoeur qui est tout à fait honorable. Les prisonniers créent une université dans l'enceinte même du camp et souhaitent absolument que cette université obéisse aux principes de l'université classique, c'est-à-dire qu'il y a un recteur, un doyen, un directeur des études, des cadres administratifs, un directeur des études, un corps professoral, il y a même 3 facultés. Lettres, sciences et droit, et il travaille avec des livres qui sont soit envoyés, je vous disais qu'il pouvait recevoir des colis, soit empruntés à la bibliothèque toute proche, qui est celle de Königsberg étant le futur Kaliningrad, enfin ça deviendra Kaliningrad sous l'époque soviétique, et c'est la ville d'Emmanuel Kant. En 1943, la bibliothèque du camp compte 22 000 volumes, dont 1600 se retrouvent affectés à l'université. L'université intérieure, donc au camp, interne au camp, donne 2 conférences par jour et en même temps elle prépare aux examens officiels. C'est assez sidérant, mais c'est ainsi. Ricoeur, lui, fait une conférence sur Nietzsche, alors évidemment sans notes, dehors, une espèce de petit théâtre de verdure et il improvise ce cours sur Nietzsche et dès cette époque-là, fait savoir que la lecture que les nazis font de Nietzsche est une lecture fautive. On a eu l'occasion d'en parler, j'ai fait cours sur ce sujet. La sœur de Nietzsche était antisémite, elle a fabriqué un faux livre qui n'a jamais existé, que Nietzsche avait prévu, enfin du moins il en avait prévu le titre, La volonté de puissance, mais il ne l'a jamais écrit, et sa sœur a rassemblé un certain nombre de papiers de son frère, dont des notes qu'il avait prises et qui étaient des essais de pensée, des réflexions inabouties, parfois des textes franchement recopiés, une vingtaine de textes de Tolstoï qu'on retrouve sans aucune référence dans La volonté de puissance, et effectivement c'est un texte dans lequel Elisabeth Förster Nietzsche transforme son frère en antisémite, ce qu'il n'a jamais été. Il a été opposé au judaïsme en tant que religion qui rend possible le christianisme, mais jamais antisémite. Elle est violemment antisémite. Et il sera tout à fait opposé à l'antisémitisme de sa sœur et de son propre beau-frère. Donc l'idée que dans un camp, on puisse faire l'éloge d'un Nietzsche qu'on dénazifie, en direct, c'est-à-dire au moment même où on le nazifie, c'est effectivement un travail de haute volée philosophique qu'il fallait faire et que certains philosophes ne font d'ailleurs toujours pas. Mais c'est l'une de ses interventions donc à Paul Ricoeur. Il intervient également sur Husserl, il traduit Ideen 1, qui est un texte fondateur pour la phénoménologie. La phénoménologie, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, est un gros mot pour dire des choses simples, c'est une description de ce qui est. Pas plus, c'est pas plus compliqué que ça. La phénoménologie, c'est l'art de dire ce qu'est un objet pour parvenir à son être ou à son essence. J'ai eu aussi l'occasion de dire que la langue allemande était une langue particulière, agglutinante, qui suppose donc que vous puissiez faire un concept avec deux ou trois ou quatre concepts, ce qui fait que quand vous traduisez l'allemand en français, vous êtes obligé parfois de faire se juxtaposer un certain nombre de mots à part, de concepts à part, ce qui fait qu'on a l'impression d'un sabir et il y a une fluidité dans la phénoménologie allemande que nous n'obtenons pas dans la phénoménologie française quand elle singe la phénoménologie allemande. Donc il y a, à cette époque-là, la découverte d'une méthode qui fait que quand on est germaniste, ce qui était évidemment le cas de ces deux-là, c'est-à-dire Ricoeur et Dufresne, on peut voir à quoi elles ressemblent, mais c'est parfois difficile d'obtenir une façon française d'acclimater cette méthode particulière. Husserl lui permet donc d'entrer dans cette méthode particulière qui va devenir d'une certaine manière une religion, et on va voir comment, parce que Dufresne dénoncera très vite et très tôt le devenir théologique de la phénoménologie. Husserl, je vous le disais tout à l'heure, est juif, il est donc interdit de lecture, d'enseignement, c'est évidemment dangereux d'avoir un livre d'un auteur juif, donc Ricoeur dans un camp, donc Ricoeur cache son volume, mais il lit en même temps Heidegger. Ce qui ne saurait être interdit, puisque vous vous en souvenez, Heidegger a sa carte au parti nazi. Michael Dufresne, lui, donne des cours d'esthétique, et ce sera son sujet, ce sera son domaine de prédilection, même si autour de l'esthétique, tel qu'il l'entend, il y a une possibilité d'agréger un certain nombre de sujets, l'éthique, la morale, la sociologie, la politique, etc. Mais il travaille à un projet qui va devenir sa thèse, qui paraîtra en 1952, et qui s'appelle « La phénoménologie de l'expérience esthétique ». Il y a dans le camp des activités esthétiques, à savoir du cinéma, deux fois par mois. Il y a un tourne-disque, donc il donne des conférences en écoutant des disques. Et Michael Dufresne lui intervient sur Péléas et Mélisande, l'opéra de Debussy. C'est une œuvre pas exactement contemporaine, mais enfin c'est la musique du jour d'une certaine manière, avec un léger décalage. Et il intervient également sur Valéry et Claudel, qui sont eux aussi deux poètes vivants et contemporains. C'est plus le cas vivant hein, pour Debussy, mais je veux dire, Valéry et Claudel étaient les poètes que, justement, Paul Ricoeur avait dans sa besace quand il est arrivé au camp, ce qui les a évidemment rapprochés. L'un et l'autre travaillent, lisent beaucoup et travaillent sur un projet commun qui est de produire une première monographie sur Karl Jaspers, qui est un philosophe, lui aussi phénoménologue, mais c'est plus compliqué. Quelqu'un qui était aussi médecin, qui a travaillé sur la psychologie, qui a dit des choses extrêmement intéressantes sur la psychanalyse, évidemment critique au regard de la psychologie qui était la sienne. Et en 1947, quand ils sont libérés, donc tous les deux publient Karl Jaspers et la philosophie de l'existence. Hiver 44-45, ils sont transférés dans un camp à l'ouest, ils marchent dans le froid, ils sont fatigués, épuisés, les mauvaises conditions physiques sont terribles, on leur promet une balle s'ils ne marchent pas assez vite, ou s'ils tombent, ou s'ils sortent du rang. Ils marchent pendant 3 jours, et pendant le dégel, ils perdent pratiquement tout ce qu'ils ont. Ricoeur lui a pu sauver ses notes pour sa thèse et sa traduction, et donc de Husserl et Dufresne également. En Pologne, ils se font tirer dessus par des soviétiques, les SS surgissent, l'un et l'autre leur parlent en allemand, ils finissent par s'expliquer et sauver leur peau. Ils sont transférés dans la prison de Stettin plusieurs semaines. Et là, Ricoeur continue son travail. On les met dans un train qui repart vers l'ouest. Ils sont transférés dans un camp du côté de Hanovre en janvier 1945. Les gardiens sont habillés parfois en détenus pour éviter que les Russes ne les reconnaissent et ne les abattent sur place. Ils marchent vers l'ouest, rencontrent les Canadiens, ils sont libérés. C'est à ce moment-là qu'ils découvrent l'existence des camps de la mort. Dufresne arrive à Paris le 8 mai 1945. Il redevient immédiatement professeur. Il entre au lycée Jacques de Cour à Paris. Et puis, il gravit les échelons. 46-47, classe prépa à Louis le Grand. 47-55, il devient assistant de sociologie à la Sorbonne. Il donne des cours d'esthétique pour remplacer Raymond Bayer, qui est malade. Et 48-52, il est détaché au CNRS. Il fait un voyage d'un an aux États-Unis. Et ça n'est pas inintéressant, je pense, pour la formation d'un homme, que d'un philosophe, d'un penseur et d'une pensée. Et ce qui est assez singulier, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, c'est que nombre de gens qui ont fait l'éloge du communisme soviétique, de l'Union soviétique, des pays de l'Est, etc., qui parfois étaient juifs et ont dû fuir le nazisme, n'ont pas hésité une seule seconde quand il a fallu choisir l'Union soviétique et les États-Unis, et tous sont allés aux États-Unis. Donc il y a cette fascination pour les États-Unis qui va de pair avec une critique des États-Unis, mais lui travaille sur ce qui donnera un livre sur la personnalité de base et également sur l'anthropologie culturelle. C'est intéressant parce que les Américains sont pragmatiques. On a eu l'occasion d'en parler au moment du cours sur Freud, c'est-à-dire que les Américains ne sont pas dans l'idéologie, ils ne sont pas dans le concept, ils ne sont pas dans la pure cérébralité. Les idées, ça doit servir, ça doit être pratique. On est dans l'utilitarisme, aux deux sens du terme, sens philosophique, philosophie de Stuart Mill ou de Jeremy Bentham. On est aussi dans le pragmatisme, là aussi au sens de Peirce, James, qui sont des philosophes américains, mais aussi au sens courant du terme. Il faut que ça produise des effets pratiques, il faut que ça fonctionne. On pense le réel, et on ne pense pas les idées qui pensent le réel, comme on le fait plutôt en France ou sur le continent européen quand on est dans une logique allemande. Fasciné par la philosophie germanique. De 49 à 55, il participe aux pages culturelles de Combat. 1953, il soutient sa thèse, jury prestigieux, Gaston Bachelard, Étienne Souriau, Maurice de Gandillac et Vladimir Jankélévitch. Des hommes libres, là aussi, même s'il n'y a pas une philosophie à proprement parler de Maurice de Gandillac, qui est un grand professeur, qui est un grand traducteur, qui est un grand éditeur, qui a traduit beaucoup de philosophie allemande, des mystiques, Jacob Böhm, etc., et qui a fait un centenaire, qui a fait une belle histoire du siècle, un peu fouillis, mais enfin, où on raconte le fonctionnement de la philosophie française au XXe siècle. Et c'est dans l'ouvrage qu'il a écrit qu'on apprend comment, et j'ai eu l'occasion de vous en parler aussi, mais comment Jankélévitch s'est comporté au moment de la soutenance de thèse de Michael Dufresne. Michael Dufresne fait donc une thèse sur l'expérience de la subjectivité, sur la phénoménologie de la perception en matière d'esthétique. Et alors que sa mère est pianiste, j'ai eu l'occasion de vous le dire, et lui pose la question, Jankélévitch, combien y a-t-il d'octaves sur un piano ? Question vacharde. On peut imaginer aussi qu'il y avait quelque chose qui relevait de l'envie ou de la jalousie chez Jankélévitch, qui a toujours eu le désir lui aussi d'un traité d'esthétique qu'il n'a jamais écrit. Cette thèse, elle est en deux parties, l'objet esthétique et la perception esthétique, où l'on voit qu'on est loin du concept, l'objet esthétique, eh bien voilà, il s'agit d'une œuvre musicale, picturale, filmique, un tableau, une peinture, une sculpture, un poème, etc., et la perception esthétique, c'est-à-dire la subjectivité qui rencontre cet objet. La phénoménologie, c'est donc l'art de décrire ce qui est. Si vous faites une phénoménologie en matière d'esthétique, eh bien vous considérez l'objet, et vous considérez la relation que l'individu va avoir avec cet objet. Comment entendez-vous ? Comment regardez-vous ? Comment percevez-vous ? Comment lisez-vous ? La réflexion de Michael Dufresne est celle-ci. Elle est donc éminemment concrète. La question n'est pas de réfléchir sur les conditions de possibilité de l'entendement, mais de savoir comment l'on perçoit et ce que l'on perçoit. Et c'est donc éminemment concret, et en même temps, ça échappe aux deux obsessions du moment, qui sont les obsessions marxistes et les obsessions freudiennes ou psychanalytiques. Là aussi, j'ai eu l'occasion d'en parler, l'obsession freudienne, elle est toute économiste. Et Freud nous dit que l'art relève de la superstructure, que la superstructure est idéologique, et que la superstructure idéologique, elle est un produit de l'infrastructure. Et l'infrastructure, c'est l'économie. L'infrastructure économique conditionne la superstructure idéologique, c'est la phrase de Marx, qui nous dit effectivement que s'il y a une pensée, et que cette pensée est produite dans un monde bourgeois, dans un monde capitaliste, eh bien c'est une pensée capitaliste ou c'est une pensée bourgeoise. Donc il suffit de mettre en perspective les modes de production du capitalisme et puis l'œuvre d'art, et vous n'en faites jamais qu'une espèce de reflet de ces conditions de production. L'analyse freudienne, c'est la sublimation, théorie faite par Freud qui nous dit « Regardez-moi, j'ai renoncé à la sexualité, et parce que j'ai renoncé à la sexualité, ma libido s'est trouvée investie sur la création d'une discipline qui est devenue la psychanalyse. Il a juste renoncé à la sexualité avec sa femme, mais il a continué avec sa belle-sœur. Et effectivement, quand on dit la chose, moi, c'est pas, ça met en colère Madame Roudinesco, mais moi, j'ai aucun intérêt à voir ce que faisait Freud de sa vie privée. Sauf que quand il nous dit que c'est le renoncement à la sexualité qui rend possible la sublimation, qu'il ne renonce pas à la sexualité, c'est que la sublimation, ça marche pas. C'est un concept qui ne fonctionne pas. Eh bien, la sublimation, c'est ce qui permet toujours de dire qu'il y a, dans toute œuvre d'art, ce que la psychanalyse propose quand elle nous propose le complexe d'Édipe, la question du meurtre du père, la question du banquet cannibale, enfin toutes les choses que vous connaissez, c'est-à-dire là encore, comme avec le marxisme, qui est intéressant, c'est la surface des choses pour pouvoir y plaquer la grille marxiste ou la grille freudienne, mais on n'entre pas dans l'œuvre elle-même. On ne saurait faire une phénoménologie marxiste ou une phénoménologie freudienne de l'objet d'art. Et en pleine période marxiste, freudienne, voire freudo-marxiste, Michel Dufresne cite Alain, tout simplement Alain, et ses 20 leçons sur les beaux-arts. Ce qui est une façon de tirer un coup de revolver dans une église, dans une soutenance de thèse à cette époque-là. Encore que le jury était susceptible d'entendre cette proposition-là, mais citer Alain et se réclamer d'Alain, c'était une façon intéressante de procéder. Il propose donc ce que j'ai appelé une phénoménologie française, et il refuse, c'est une citation, de s'égarer dans l'évocation de la conjoncture historique ou des circonstances psychologiques de la création. C'est très exactement ce que je vous disais, donc. La conjoncture historique, analyse marxiste, les circonstances psychologiques, analyse freudienne. Il renvoie, citation, au recueillement que suggère la contemplation esthétique. Recueillement, c'est une grossièreté dans cette époque-là, puisqu'on renvoie à la spiritualité, presque à la religiosité, presque aux pratiques religieuses chrétiennes. Et la contemplation, c'est aussi une espèce de vice bourgeois pour les marxistes, et en même temps quelque chose d'inapproprié pour les freudiens, qui ne pensent pas qu'on doive contempler une œuvre, mais qu'on doive chercher en elle les signes de la névrose du créateur. Il propose donc une phénoménologie de la pratique esthétique. Il n'oublie pas donc le sujet qui regarde et il n'oublie pas non plus l'objet regardé. Il écrit « Nous ne nous astreignons pas à suivre à la lettre Husserl. Nous entendons phénoménologie au sens où M. Sartre et M. Merleau-Ponty ont acclimaté ce terme en France. Description qui vise une essence, elle-même définie comme signification immanente au phénomène et donnée avec lui. » Ça peut paraître compliqué, mais description qui vise une essence, soit votre essence, elle est immatérielle, soit votre essence, elle est matérielle, en l'occurrence. Donc, cette essence, elle est matérielle, puisqu'elle est définie comme signification immanente, donc dans l'objet lui-même, immanente au phénomène et donnée avec lui. Je poursuis. L'essence est à découvrir, mais par un dévoilement, et non par un saut du connu à l'inconnu. C'est-à-dire chercher le sens de l'œuvre dans l'œuvre et pas hors de l'œuvre. La phénoménologie s'applique en premier à l'humain parce que la conscience est conscience de soi. Ça, c'est une phrase de Husserl. Il n'y a pas de conscience sans conscience de soi. Il n'y a pas non plus de conscience sans conscience d'un objet que nous viserions. Donc là, on est vraiment dans l'option husserlienne. Donc la phénoménologie s'applique en premier à l'humain parce que la conscience est conscience de soi. Deux points. C'est là que le modèle du phénomène, l'apparaître comme apparaître du sens à lui-même. C'est-à-dire que ce qui est advient ici et maintenant indépendamment de quelque chose qui lui donnerait sens en dehors de lui-même. Ce qui donne sens à l'objet, c'est ce qui est dans l'objet et qu'une phénoménologie doit pouvoir rendre perceptible et audible. Nous laissons de côté, quitte à y revenir à la fin, l'acception du terme dans la métaphysique hegelienne où le phénomène est une aventure de l'être qui se réfléchit en lui-même par quoi l'essence se dépasse dans le concept. On n'entre pas dans le détail, c'est une façon aussi de prendre position à l'endroit de Hegel qui lui-même est un père fondateur du marxisme. Il y a dans l'appréhension marxiste évidemment beaucoup d'hegelianisme. Il nous propose une philosophie non théologique. C'est son expression. Il s'inscrit donc dans un courant de phénoménologie athée. C'est-à-dire qu'il prend à contre-pied tous ceux qui, à l'époque, pratiquent une phénoménologie qui est plutôt spirituelle, on dira. Parfois chrétienne, parfois juive, juive pour Lévinas, juive pour Derrida, chrétienne pour Henri, Michel Henry, Jean-Luc Marion ou Jean-Louis Chrétien, mais qui sont des gens qui sont postérieurs aux travaux de Dufresne. Il écrit donc un livre qui s'appelle « Le poétique », qui paraît en 1963, et il réédite ce livre en 1972 avec un avant-propos qui s'appelle donc « Pour une philosophie non théologique ». C'est là aussi un coup de tonnerre dans l'histoire de la philosophie, parce que la phénoménologie est devenue théologique. Elle s'occupe d'objets qui ressemblent de plus en plus à Dieu, à un Dieu indicible, à un Dieu invisible, mais la phénoménologie s'en va chercher des essences en dehors de l'objet, ailleurs, nulle part, mais quelque part quand même. Donc on peut disserter longuement sur cet ailleurs, sur ce nulle part, sur ce lieu qui n'est pas un lieu, sur ce lieu qui est un non-lieu, ou etc. Ça, c'est la phénoménologie spirituelle, voire religieuse. Lui dit qu'il veut une philosophie non théologique. Cette philosophie non théologique, il l'aborde en essayant de comprendre, nous dit-il, Derrida et Blanchot. Mais il nous dit qu'il ne les comprend pas. Professeur de philosophie à la Sorbonne, il nous dit, voilà, Derrida, Blanchot, j'essaie de lire, je lis, je ne comprends pas. Évidemment, tout le monde en est là, mais personne ne le dit. Il s'agit au contraire de dire que c'est profond, que c'est très important, mais personne ne dira, le roi est nu. Lui ose le dire. À l'époque où tout le monde estime que la philosophie prend un tour révolutionnaire avec cette pensée-là ou ces penseurs-là. Il interroge l'écriture et la différence, et de la grammatologie, qui sont deux livres de Derrida, et également l'entretien infini de Blanchot. Il dit, bon, là, je ne les comprends pas, mais ce sont des disciples de Heidegger, donc je vais aller voir du côté d'Heidegger. Il lit Heidegger, et il considère que Heidegger est l'inventeur de ce qu'il appelle la philosophie de l'absence. Philosophie de l'absence. Lui veut très exactement l'inverse, c'est-à-dire une philosophie de la présence. On peut organiser l'absence qui devient une présence et passer sa vie sur cette absence éternellement présente. C'est tout le travail de Derrida, ou une grande partie du moins du travail de Derrida, une grande partie du travail de Blanchot, c'est-à-dire on passe son temps à dire qu'on ne peut pas dire. On passe son temps à produire une analyse en disant qu'on ne peut pas produire une analyse. Et donc cette façon de faire peut durer, on peut faire des livres en quantité, on peut faire des discours en quantité, mais en même temps on produit une espèce de secte. Et on peut produire des individus qui, les Heideggeriens, les Derridiens, les Blanchotiens, se mettent à singer le discours du maître, et voilà Michel Dufresne qui nous dit « ça ne veut rien dire ». Ça ne veut rien dire si ce n'est faire revenir par la fenêtre ce qu'on a fait sortir par la porte, ou l'inverse, c'est-à-dire Dieu. Heidegger nous dit que l'être est invisible. Le propre de l'être, c'est d'être invisible. Parce qu'il est, s'il était visible, c'est qu'il ne serait pas être, mais qu'il serait étant. Pas avec un G, hein, je vous ai dit il y a quelque temps qu'un journaliste avait reproduit mon propos en me disant que je parlais des étangs. Je dis non, je veux bien en parler, mais chez Heidegger, c'est pas l'étang dans lequel on pêche, c'est le propre de ce qui est concrètement. L'être, c'est ce qui est, mais pas concrètement. Le propre de l'être, c'est l'être de ce qui est sans avoir besoin des étangs, si vous voulez. Pas besoin des choses ou des objets qui sont pour que l'être soit. Si l'être est quelque chose de visible ou de perceptible, il n'est plus l'être. Ce sont des étangs. Donc, parce que l'être est invisible, il va falloir disserter longuement sur cette invisibilité. Et c'est tout le travail de Heidegger, penser l'être en dehors des étangs. C'est-à-dire ne pas penser les choses, mais penser l'essence des choses sans ces choses. Donc vous voyez comment, c'est l'expression de Lichtenberger qui parlait d'un couteau sans manche auquel on avait enlevé la lame. C'est-à-dire, il ne vous reste plus grand-chose, si ce n'est l'idée de couteau. Donc si vous prenez les étangs et que vous enlevez la matérialité des étangs, ben, vous n'avez plus les étangs, mais vous avez quelque chose qui ressemble à l'être. Donc l'être serait une espèce de divinité ou de déité qui serait doué de toutes les qualités de Dieu, invisible, éternel, immortel, immatériel, etc. Dufresne nous dit, chez Heidegger, citation, « L'être est toujours au-delà, inassignable, innommable, jouant avec la pensée une étrange partie de cache-cache. » Même si Heidegger s'en défend, et il s'en défend, sa philosophie procède d'une inspiration théologique, nous dit-il. Et de fait, il avait raison, et il a raison. C'est la même chose avec Derrida, nous dit Michel Dufresne. Il a des concepts du genre différence avec un A à la place d'un E, déconstruire ou déconstruction, trace, architrace, etc. Mais il rentre dans le détail de cette façon qu'ont les philosophes de parler pour ne rien dire, mais tout en disant, et en disant longuement. Et quand ça fait 300 pages, c'est long, surtout sur la fin. Donc Derrida, nous dit-il, évolue dans un monde d'idées pures, en compagnie d'objets insaisissables, qui relèvent de la théologie négative. La théologie négative, c'est au 2e, 3e siècle, avec des gens comme le pseudo-Denis, l'Aréopage, ou d'autres, c'est cette façon de faire qui dit qu'on ne peut pas dire quelque chose de Dieu. Si vous dites une chose de Dieu, c'est que le contraire, vous ne pouvez pas le dire de lui. Et si vous ne pouvez pas dire le contraire de Dieu, c'est qu'il lui manque quelque chose, et il ne peut rien manquer à Dieu. Exemple, si vous dites « Dieu est grand », eh bien Dieu, s'il est grand, il n'est pas petit. S'il n'est pas petit, il ignore la petitesse. Et un Dieu qui ignore ne peut pas être Dieu. Donc il faut qu'il soit petit aussi. S'il est petit, il ignore la grandeur. Donc s'il ignore la grandeur, etc., etc. Et vous concluez qu'à chaque fois que vous avez une qualité de Dieu, la qualité inverse lui manque et lui fait défaut. Donc de Dieu, on ne peut dire qu'une seule chose, c'est qu'on ne peut pas le dire. Mais ça peut durer 500 pages. Donc la théologie négative a produit des effets considérables dans l'histoire des idées, et elle en a produit beaucoup au XXe siècle. Le réel se trouve évidemment congédié au profit de l'idée, et l'idée n'est jamais vraiment très loin de Dieu, qui lui n'entretient qu'une relation avec la réalité. Donc c'est une espèce de système en vase clos. Vous dissertez avec des concepts, avec des idées, avec des choses désincarnées, avec des essences désincarnées, et on peut avoir des lecteurs, il y a des lecteurs pour ce genre de choses-là, et considérer que la philosophie, c'est ça. Pour Michel Dufresne, c'est exactement l'inverse. Lui, il veut que la philosophie soit non pas l'art de s'échapper du monde, mais l'art de rester dans le monde pour l'aimer et le comprendre, ou pour le comprendre d'abord et l'aimer ensuite. Dufresne écrit « L'ontologie de la présence n'est pas nécessairement une ontothéologie », c'est-à-dire la présence n'est pas une présence transcendante, n'est pas une présence dans un autre monde, c'est une présence ici-bas. C'est même étonnant qu'on ait besoin de dire que c'est une présence ici-bas, ça pourrait être presque une contradiction. Mais chez ces tenants d'une philosophie de l'absence, eh bien, on voit que ça n'est pas inutile de le préciser, il faudrait donc une ontologie de la présence présente, plutôt qu'une ontologie de la présence absente. Dufresne propose une réflexion, lui, sur un réel tangible. Et quand il travaille sur le poétique, par exemple, il aborde des questions extrêmement simples qui parlent à tout le monde, la lecture, la récitation, les relations entre le langage, la prose et la poésie, le rythme, l'harmonie, la musicalité poétique, le sujet poétique, l'état poétique, les figures du poète, soit des artisans, des tâcherons, si vous voulez, des gens qui versifient à la tâche, soit des inspirés, à la Rimbaud. Il s'interroge sur la vocation, sur le rôle de l'imagination, sur la poétique dans la nature, ou le poétique dans la nature, sur la nature et le poète, les relations qu'ils entretiennent, sur la nature comme poétique, poétique, poiesis en grec c'est création, c'est-à-dire que la poésie c'est d'abord l'art de créer quelque chose, et il y a du poétique à chaque fois qu'il y a de la création, fût-ce en dehors évidemment de la poésie au sens classique. Il interroge la poésie comme catégorie esthétique ou l'homme poétique. Donc vous voyez que on est dans des choses éminemment concrètes. Il écrit « Une philosophie non théologique, c'est une philosophie pour laquelle il n'y a pas à attendre de parousie, c'est-à-dire d'avènement un jour d'un salut. Elle sait que la présence est donnée hic et nunc, ici et maintenant. Elle est le don même qui n'implique pas de donateur, qui est seulement le devenir imprévisible et prodigue du réel. Pas d'origine absolue aux frontières du néant, mais seulement de l'originaire, la puissance de la nature. » Pas de geste créateur, sinon celui de l'homme qu'habite cette puissance. L'origine est toujours là, dans ce pacte que scelle ma naissance et que la perception ne cesse de renouveler. Nous ne cessons de l'oublier et nous ne pouvons nous en déprendre. L'ici et maintenant dont il nous parle, c'est le réel et la nature. Ce sont les choses et la perception de ces choses. C'est l'immanence et l'homme, et en même temps l'homme dans cette immanence. Où l'on voit bien que ce que souhaite Michel Dufresne, c'est penser le réel dans son apparition immédiate. C'est le monde qui l'intéresse. C'est pas l'idée du monde. Parce que la phénoménologie, du moins telle qu'il l'entend, n'est pas pour lui une technique pour sortir du monde à la Heidegger, ou à la Blanchot, ou à la Derrida, mais c'est une technique pour pénétrer le monde, saisir le monde, le comprendre, et, je vous disais tout à l'heure, l'aimer. il y a une dimension hédoniste dans la philosophie esthétique de Michel Dufresne. L'art, pour lui, guérit de la religion. La religion, c'est divers et multiple. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait de la théologie négative, qu'il y avait de l'ontothéologie. Donc vous voyez qu'il y a des façons diverses et multiples d'être dans la logique de la religion, sans qu'on soit dans une logique de catholicisme, de protestantisme ou d'obéissance aux dogmes, bien sûr. Eh bien, l'art, tel que Dufresne l'entend, guérit de la religion, il guérit du sentiment religieux, du comportement religieux et de l'expérience religieuse. Contente-toi du monde donné, disait Nietzsche, rappelant Démocrite, en nous disant effectivement que le philosophe devrait nous inviter à nous contenter du monde donné. Or, ces philosophes de l'absence font de cette absence une présence qui est une présence obsédante. Et cette présence obsédante, elle fait de la philosophie quelque chose qui ressemble par trop à la théologie. Il faut donc retrouver le sens de l'immanence. Même la science, chez ces gens-là, nous dit-il, est sérieuse. Elle est sérieuse parce qu'elle aime le pouvoir, qu'elle veut le pouvoir, qu'elle chemine avec lui, et qu'elle sacrifie l'homme sous prétexte de réaliser ou d'accomplir sa vocation. La philosophie se présente aussi, ou se prétend aussi, et là aussi c'est un coup de pied de l'âne à Hegel, ou à la pensée de Hegel et de l'hégélianisme, la philosophie se prétend comme le savoir absolu, elle a détaché le savant du savoir, elle a dissocié également la conscience de l'expérience, et qu'elle entretient du non-savoir comme d'un savoir, et nous dit-il, avec une autorité terroriste. Là encore, il y a cette idée que ces philosophes vont chercher du côté de l'absence pour en faire la présence ultime, et que le non-savoir devient le savoir, et ce, de manière terroriste. Cette pensée-là, pensée structurale, la pensée structuraliste, nous annonce d'abord la mort de Dieu, avec Nietzsche, puis la mort de l'homme, avec Foucault, mais nonobstant la mort de Dieu, puis la mort de l'homme, elle nous fait rentrer Dieu que nous avions déjà congédié, parce que ce Dieu-là n'est pas évidemment le Dieu du christianisme, mais c'est le Dieu des théologiens mystiques ou des théologiens négatifs. C'est-à-dire qu'en 1972, puisque c'est la date de parution de ce texte ajouté à cet ouvrage sur le poétique, donc 18 ans avant Dominique Janicot, qui lui avait écrit un livre sur le tournant théologique de la phénoménologie française, il dit ces choses-là, déjà. À ce moment-là, Michel Dufresne voit bien qu'il y a un tournant théologique à la phénoménologie. Il s'agit pour lui de penser le monde et de considérer que la pensée du monde, c'est l'occasion d'une joie. Ce sera l'essentiel de son travail. Il y a chez lui donc une pensée anti-heideggerienne, anti-phénoménologie allemande, une pensée anti-heideggerien, pas seulement contre Heidegger, mais contre les disciples de Heidegger, et il attaque de front et de plein fouet le structuralisme dès 1963. C'est juste un an après La pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss. Il faut le temps de lire ce livre, pas un livre simple ni facile, et c'est l'époque où on pouvait faire de la critique philosophique en ayant lu les livres, et pas en écrivant des livres, des articles, avant que le livre soit même paru. Donc c'est un long travail d'une année, qui est un travail collectif avec l'équipe d'Esprit, la revue Esprit, et sous la responsabilité de son ami Paul Ricoeur. Ils se proposent tous les deux de réfuter le structuralisme, et pour ce faire rencontrent Claude Lévi-Strauss, donc c'est un débat haut de gamme qu'ils ont tous les deux, et il y a des contributions de gens qui eux aussi sont haut de gamme, Jean-Pierre Faye, Kostas Axelos, et également un certain Pierre Hadot. Et ça n'est pas inintéressant de voir apparaître le bout du nez de Pierre Hadot à ce moment-là, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une critique du structuralisme chez Pierre Hadot, et on verra, conclura l'année et les 13 années de la contre-histoire avec un éloge de Pierre Hadot et du dépassement qu'il propose du structuralisme. 1963, premier dossier. Deuxième dossier, en 1967, toujours dans Esprit, avec un titre qui est Structuralisme, avec un S, sous-titré Idéologie et méthode. Et Althusser, qui attaque aussi, on verra comment et de quelle manière, Althusser a fait paraître un livre en 1968 qui s'appelle « Pour Marx », eh bien, Michel Dufresne fait paraître un livre qui s'appelle « Pour l'homme ». On fera l'analyse de ce texte-là, mais il nous dit, dès la page introductive, « Cet essai se propose d'évoquer l'anti-humanisme propre à la philosophie contemporaine et de défendre contre elle l'idée d'une philosophie qui aurait le souci de l'homme ». C'est très exactement aussi la thèse de Luc Ferry et de Alain Renaud, la thèse de La pensée 68, mais c'est 20 ans avant. Cette idée-là est déjà là chez lui. Il continue dans sa profession, il devient maître de conférences, professeur à la faculté des lettres de Paris, il travaille sur les notions d'a priori, et ça donne deux des livres auxquels il tient beaucoup, le matériau de son premier ouvrage sur ce sujet-là, 1959, la notion d'a priori, et le second qui est l'inventaire des a priori, sous-titré « Recherche de l'originaire » en 1981. L'homme n'est pas mort. C'est la thèse de ces deux ouvrages, donc le structuralisme a tort sur ce sujet-là, et il doit trouver dans la nature, via l'art et la poésie, de quoi donner un sens à son existence. C'était déjà le sens d'un livre d'Étienne Souriau, qui s'appelait « Une couronne d'herbe », je crois, très beau livre aussi, qui propose une alternative philosophique avec l'esthétique. C'est-à-dire l'esthétique n'est pas marxiste, l'esthétique n'est pas freudienne, mais l'esthétique est poétique. Au sens que je donnais tout à l'heure, c'est-à-dire l'art de créer. Et l'art, pour le coup, de créer sa vie, de créer un style d'existence. C'est une proposition existentielle que Michel Dufresne nous fait. Il s'agit de retrouver la connivence entre l'homme et le monde. Cesser de croire que l'homme est mort, l'homme est donc bien vivant, et ce qu'il faut retrouver, c'est le sens de la présence de l'homme au monde. La tâche de la philosophie, c'est donc de rendre claire cette connivence-là, parce qu'elle est susceptible, cette connivence, et quand on aura conscience aussi, donc, de procurer de la joie. C'est le terme qu'il utilise. Donc, hédonisme évident chez Michel Dufresne. La phénoménologie, c'est donc la voie qui conduit à découvrir ce monde-là et à y trouver sa propre place. Ces années-là, il co-dirige la revue d'esthétique, entre 60 et 94, avec Étienne Souriau, et puis après ça, en 1978, avec Olivier Revaud-Dallone. 64-74, il est à Nanterre, c'est le moment où on fonde le département de philosophie, et il fait revenir Ricoeur. Il y a mai 68, on sait que Ricoeur a été particulièrement maltraité à Nanterre par les étudiants maoïstes et lacaniens à l'époque, poubelle sur la tête, insultes, graffitis, etc., interruption de cours, violence et brutalité, physique, psychique, etc. Enfin, ça a été d'une extrême violence. Il est évidemment le compagnon de route de Paul Ricoeur dans cette aventure, tout en étant compagnon de route aussi de mai 68. Ça reste son ami, et en même temps, ça n'est pas contradictoire, puisque le pauvre Paul Ricoeur, quoi qu'on ait pu lui reprocher, n'a jamais été un homme de droite qui se serait opposé à la totalité de mai 68. Il donne des conférences un peu partout sur la planète, professeur invité, Italie, Pologne, Roumanie, Grèce, Japon, Zaïre, Canada, Québec, et aux États-Unis, il n'y va pas tant que dure la guerre du Vietnam. Un peu avant mai 68, il crée, 67, donc il crée et dirige une collection d'esthétique, enfin ça s'appelle Collection d'esthétique aux éditions Klingsic, qui permet de défendre cette option particulière d'une esthétique qui ne serait ni marxiste ni freudienne. Et sur ses positions politiques, c'est rapporté par Dino Formaggio dans un texte qui s'appelle Michel Vivant, qui est un recueil d'hommages à Michel Dufresne. Il est invité à faire une conférence dans un établissement catholique et Michel Dufresne répond « Mais moi je suis anarchiste ». Donc c'est plutôt son option politique. Il démissionne du comité consultatif des universités en 1972 parce que les magouilles font qu'on refuse à l'époque d'inscrire Jean-François Lyotard sur la liste des maîtres de conférences. Et deux ans plus tard, il prend sa retraite en 1975. Il continue à écrire, à donner des cours, à des conférences, à diriger la revue jusqu'en 1988. Et puis, la fin de son existence, qui est douloureuse et souffrante, lui permet de penser cette question, vieillesse, souffrance, la question de la mort également, c'est un tout petit texte qui s'appelle « Vieillir » et on n'a pas trop de détails, il répond à un interlocuteur. Il est devenu grand insuffisant respiratoire depuis plusieurs années et comme Gilles Deleuze, c'est-à-dire il a besoin de bouteilles d'oxygène au quotidien. Et il dit qu'il ne s'est jamais senti vieillir mais qu'il a découvert qu'il était vieux. C'est une façon aussi de faire de la phénoménologie, une phénoménologie de la vieillesse. On passe sa vie à ne pas se sentir vieillir, mais on découvre un jour qu'on est devenu vieux, c'est-à-dire que de vieillir, on ne peut dire qu'une seule chose, c'est que nous avons vieilli. Et nous avons vieilli à partir du moment où nous mesurons un état présent à un état passé qui nous permet de savoir quelle translation a eu lieu ou ce qu'on est devenu. La mesure, ça n'est pas au quotidien. Chaque jour, nous vieillissons, mais chaque jour, nous ne le voyons pas. Mais ce sont des moments précis, qui sont des paliers qui se descendent, nous dit-il, à des rythmes différents. Il analyse la vieillesse en nous disant que ce ne sont pas, dit-il, ce ne sont pas les proches qui nous le disent, c'est faux, de temps en temps certains ont la cruauté de nous faire savoir, mais nous-mêmes qui le voyons, nous le constatons. Citation de Michel Dufresne, on n'avait pas d'humour, hein. quand j'ai été incapable de couler ma brasse, il était grand nageur et grand joueur de tennis, quand j'étais incapable de couler ma brasse et que j'en ai été réduit à nager sur le dos, quand j'ai été trop essoufflé pour courir après une balle et que j'ai dû renoncer à pénétrer sur un court, quand j'ai vu que mes réflexes étaient moins rapides et les mouvements que j'imprimais au volant trop brusques, donc faites attention ce soir en rentrant, et que j'ai dû apprendre à conduire moins vite, et combien d'autres occasions, plus discrètes, d'éprouver un ramollissement du ressort vital, ça c'est pour moi, de points, une certaine impotence et aussi une certaine fragilité. Et il ajoute que la vieillesse ne va pas sans grâce, donc réjouissons-nous. Il pensait par exemple que le sport qui tenait une place importante dans son existence lui poserait des problèmes, que quand il ne pourrait plus ni nager ni jouer au tennis, ce serait problématique. Et il constate que, eh bien, quand il en est privé, ça ne le gêne pas, dit-il. Citation, « Ce que je ne peux plus faire, je n'ai plus envie de le faire ». Et il ajoute que, il y a un moment donné où on se pose aussi la question, quand on a écrit et beaucoup écrit, de se dire à quoi bon continuer à écrire, puisque ce qu'on a écrit n'a pas changé grand-chose au cours du monde. Il nous dit qu'il connaît et qu'il expérimente la sagesse des vieillards, qu'il joue désormais au bridge et qu'il lit des polars. Alors ne prenez pas, les bridgeurs, ne prenez ça, pas ça pour vous, hein, les lecteurs de polars non plus. Et ces dernières années, nous dit-il, ont été de souffrance. Il vit sous assistance médicale, ne peut plus sortir de son appartement, rue Rosa Bonheur. J'ai pas eu beaucoup de détails, mais je sais qu'il s'est remarié entre deux et sa compagne l'assiste heure par heure. Son état se dégrade, il perd son indépendance et il décide d'arrêter l'appareillage qui lui permettait de vivre jusqu'au 10 juin 1995, qui est la date de sa mort, à l'âge de 85 ans. Il est incinéré, enterré au Père-Lachaise, et il avait choisi ce professeur d'esthétique qui connaissait si bien la musique, Éric Satie et Hector Berlioz, pour la cérémonie d'incinération. Ce qui est intéressant, c'est le musicien de l'humour, Satie, de la délicatesse, c'est du presque rien. C'était l'un des musiciens préférés de Jean Kelevitch, et Berlioz, sauf les mélodies, mais je ne sais pas quel Berlioz il avait choisi, mais c'est plutôt le grand romantique qui fait beaucoup de bruit. Contradiction, aurait dit Dufresne et Paul Ricoeur. Tension, oserais-je répondre ce soir. Je vous remercie. François Doss a écrit une biographie de Paul Ricoeur qui s'appelle « L'essence, les plus loin sens d'une vie » aux éditions La Découverte. Et c'est un livre qui a été important pour moi dans la construction de cette biographie parce que, je dis, il n'y a pas de biographie, il n'y a pas d'autobiographie, il n'y a pas grand-chose sur le terrain de l'existence du personnage. Et tout ce qui est période de la guerre, et évidemment, c'est commun à Ricoeur et à Dufresne, donc François Doss. Et puis parce que ça permet aussi de savoir que Ricoeur existe dans ce trajet de l'histoire de la philosophie du XXe siècle. J'ai choisi une biographie d'Alain, la plus récente, de Thierry Leter, Alain, le premier intellectuel. Michel Dufresne, Paul Ricoeur, Karl Jaspers et la philosophie de l'existence, réédition donc au Seuil, avec la fameuse préface de Jaspers. Le poétique, Michel Dufresne, sa thèse, phénoménologie de l'expérience esthétique, l'objet esthétique et la perception esthétique, deux volumes réunis en un seul, aux presses universitaires de France. Et puis, deux de mes petits protégés, des jeunes philosophes, Henri de Montvalier et Nicolas Rousseau. J'ai reçu un texto tout à l'heure de Nicolas me disant qu'il était reçu à l'agrégation, donc de philo, et qui m'ont envoyé un jour un manuscrit par la poste. Et comme je m'occupe d'une collection aux éditions Autrement, qui s'appelle Université Populaire et Compagnie, la collection, j'ai édité leur livre qui s'appelle « Blanchot l'obscur » avec un sous-titre qui est « La déraison littéraire ». Et ils ont tous les deux le projet d'écrire un livre sur le jargon dans la philosophie française. J'espère qu'une jeune génération est née. Voilà pour la bibliographie.
C'était « Contre-histoire de la philosophie » de Michel Onfray. Prise de son, France Bleu Basse-Normandie. Collaboration technique, Centre dramatique national de Normandie. Réalisation, Anne-Pascale Desvignes. Demain, nihilisme et mort de l'homme.